Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines. Nouvelle vilaine. Histoire. Eh bien, bonjour. Ah, nous allons retrouver Victor, petite pêche, et notre Indien. Je vous rappelle comme ça qu'ils étaient quelque part en Lozère, du côté de Marvejols, et que trois affreux individus qui leur avaient d'abord raconté une sombre histoire de bêtes qui terrorisaient la région, sont revenus et les ont fait prisonniers après avoir mis un gros coup sur la tête à notre pauvre Indien et saucissonner tout le monde, et qu'il s'apprêtait à la fin du précédent épisode à violer atrocement petite pêche à la peau douce. Que va-t-il se passer maintenant ? Rire gras et mots grossiers à la bouche, les scélérats se saisissent de petites pêches à la peau douce. Elle se débat comme elle peut, mais elle peut peu, saucissonner comme elle est.
« Ouah, il va falloir la détacher, la tigresse !»
que dit l'un des truands.
« Oh, bah tenez-la, je m'en occupe, » dit le deuxième.
Rigole le dernier.
Et tsing, tchop,
fait la flèche en se plantant dans le dos du rigolard. Le rire coupé net, le truand oscille quelques secondes avant de s'abattre. Mort. Les deux autres se regardent, interloqués. Et zouim! Clop ! Une deuxième flèche vient se planter près des pieds de l'un des deux ignobles personnages.
La prochaine sera pour celui qui bouge.
Et sur ces mots, perd la piste, sort du sous-bois en bandant son arc une nouvelle fois. Ah, les deux crapules n'ont pas d'arc, mais ça ne les empêche pas de faire le contraire. À tout hasard, ils font ce qui se fait dans une telle situation. Ils lèvent les mains très haut. D'un coup de couteau, perd la piste, délivre Victor de ses liens. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est étonnant comme les couteaux des héros coupent bien. Moi, ça m'étonne toujours. Ah, c'est bien moins élégant quand c'est vous qui le faites, hein. Essayez pour voir, hein. Vous allez être obligé de prendre la corde dans une main, de l'acier littéralement avec l'engin qui vous sert à trancher le saucisson quand votre budget vous le permet de l'offrir. Bref, vous allez peiner, hein. C'est une preuve de plus, vous n'êtes pas un héros, ah. Et Victor, ayant libéré de ses liens toute sa petite famille, entreprend la manœuvre inverse sur les fripouilles qui, maintenant, ont l'air beaucoup moins fiers. Sauf Petite Pêche. Enfin, sauf Petite Pêche, c'est Père Lapiste, qui a changé de nom, évidemment, entre-temps, dit qu'il faut les attacher à un arbre. Hein ? que dans un premier temps, il va apprendre aux enfants à tirer à l'arc et que si les deux cibles sont encore vivantes après leur apprentissage, eh ben, il n'y aura qu'à les laisser là et que la bête s'en chargera. Hein ? Du coup, les ex-agresseurs font dans leur culotte. Hein. Ils braillent à qui mieux, qu'ils jurent qu'ils ne le feront plus, qu'ils sont d'accord d'avance pour faire tout ce qu'on voudra bien, qu'ils sont prêts à cirer les pompes de Victor, de Petite Pêche et des autres. Enfin, si toutefois... on veut bien avoir la gentillesse de leur laisser la vie sauve, hein, c'est qu'ils ont des femmes et des enfants, et que leurs petites familles ont besoin d'eux pour venir à leurs besoins, et puis que d'ailleurs, c'est pas eux les responsables, hein. Ils se sont juste laissés entraîner par l'affreux salopard qui gilait pas loin avec une flèche plantée dans la poitrine, et que voilà, c'est bien fait pour lui, hein. Alors, comme ils arrêtent un moment leur litanie pour reprendre leur respiration, Petite Pêche intervient. « Non, laisse-les, sauve moi-même. Laissons-les attachés à l'arbre, si tu veux, mais laisse mes enfants en dehors de tout ça. Et puis, ils savent déjà tirer à l'arc. Hein, pas vrai, les garçons ?»« Ah si, maman !» répondent d'une seule voix les galopins. « Et swing, clap, pluc !» Deux flèches viennent se ficher dans les lobes des oreilles du plus grand des pleurnichards. « T'as vu, hein, maman ? On tire bien, hein ?» Et « zwing !»« Clap !»« Spam !» Et le deuxième est épinglé de la même façon. « Ah, c'est vrai que vous savez tirer, » dit Sauve Petite Pêche en leur tapotant la tête. Alors, il se dirige le couteau à la main vers les vauriens. Et d'un coup... Encore une fois, hein. c'est un héros ce mec. Il tranche la corde qui les retenait prisonniers et tout en arrachant les flèches qui les maintenaient à l'arbre, il explique le jeu de la flèche brisée. Ah, c'est simple, le jeu de la flèche brisée, vous allez voir. Il explique ça, pauvre Petite Pêche, aux deux fers à bras. Alors d'abord, leur dit-il, vous vous mettez tout nu. Et ensuite, je tire une flèche le plus loin que je peux. Et puis, vous allez tranquillement jusqu'à la flèche. Et quand vous la cassez en deux, comme ça, hein, il fait le geste là avec une de celles qu'il vient d'arracher de leurs oreilles, je me lance à votre poursuite avec mon arc. Et si je ne vous tue pas avant demain à la même heure, eh ben vous aurez la vie sauve. C'est pas compliqué, hein? Ah ben effectivement, les deux malfrats trouvent que c'est pas compliqué, mais ils trouvent que c'est des procédés de sauvage. Alors eux, en bons civilisés, ils se contentent d'égorger, d'anéantir, d'assassiner, d'assommer, de décapiter, de détruire, d'écarteler, d'échiner, d'écraser, d'empaler, d'étrangler, de détriper, d'éventrer, de fusiller, de garrotter, de lyncher, de noyer, de poignarder, de pendre ou de saigner leurs victimes. Jamais, au grand jamais, ça ne viendrait à leur idée de laisser à la victime la moindre chance. Enfin, c'est des idées de sauvages, ça. Mais enfin, comme ils n'ont vraiment pas le choix, c'est avec l'air bête de rigueur dans ces cas-là qu'ils se retrouvent tout nus, les deux mains devant ce qu'ils tenaient tant à montrer à Petite Pêche, pas plus tard que tout à l'heure. Sauve Petite Pêche bande son arc, il le lève, il tire, et la flèche décrivant une longue parabole va se ficher dans le sol à 163 mètres plus loin, ce qui n'est pas un mince exploit. L'air satisfait de lui, Sauve Petite Pêche leur fait signe qu'ils peuvent y aller. On peut noter dans son geste une pointe d'humour goguenard du plus bel effet. Les deux exhibitionnistes s'éloignent lentement. On sent très bien que ce qui va suivre ne leur plaît pas du tout et que s'ils le pouvaient, ils consacreraient leur temps à toute autre chose. Le macramé, par exemple. Et arrivé près de la flèche, il semble hésiter un moment, et puis, se décidant, l'un d'eux s'empare du trait, le brise, et ils se mettent alors à courir de toutes leurs jambes. Alors là, je vous ferai remarquer que c'est encore une expression idiote, hein ? Essayez donc, vous, de courir sans toutes vos jambes, hein ? Vous m'en direz des nouvelles. Non, il y a des expressions comme ça, je comprends pas, moi. Alors, on court ? Demandent les enfants. Rit bizarrement, sauf Petite Pêche. Bah non, on court pas, c'était juste pour leur fiche la trouille. Ils vont cavaler comme ça jusqu'à demain, et si vous voulez mon avis... Non, mais on n'est pas des sauvages, quoi. Et alors, tous se mettent à rire joyeusement. Profitant de l'ambiance, Victor fait une vague tentative de... « Ah ben, on pourrait peut-être fêter ça, non ?» Mais le regard que lui jouait Petite Pêche met court à la tentative en question. Pas question qu'il boive un coup de plus. Alors, comme le jour se lève, ils se décident de lever le camp et de poursuivre leur route... quand un des jumeaux fait la remarque que les bandits n'ont certainement pas dû arriver à pied et que leurs chevaux doivent être quelque part dans le coin et que si on s'y mettait sérieusement, eh ben, on ne devrait pas manquer de les trouver et que comme ça, ben, on ne serait pas obligé de marcher bêtement comme on le fait depuis que... Alors là, Petite Pêche interrompt le gamin et lui dit que c'est oublié et qu'il ferait mieux de dire merci à Sauve ta mère plutôt que de remuer le couteau dans la plaie. Victor en remet une couche en disant que si on est encore vivant, c'est bien grâce à Sauve ma femme et qu'on devrait fêter ça au lieu de se faire des reproches, hein ? Sauf Petite Pêche dit « Merci bien, vous êtes gentil, mettons-nous à la recherche des chevaux. » Et l'auteur, lui, il dit rien parce que c'est la fin de l'épisode. Les deux affreux devaient courir encore en redoutant d'être atteints par les flèches meurtrières de Sauve Petite Pêche quand arriva ce qui suit. Comme l'avait suggéré l'un des jumeaux, nos amis avaient trouvé trois chevaux aux alentours de leur campement. L'un d'eux fut chargé du bagage et Petite Pêche et les enfants montèrent les autres pendant que Victor et Sauve Petite Pêche allaient à pied. Sauve Petite Pêche marche la tête haute, en fier guerrier qu'il est, ce qu'il ne faisait plus depuis qu'à cause de lui, les précédentes montures avaient disparu. Pour fêter son exploit, il s'est octroyé le droit d'ajouter une plume de plus à sa coiffure. N'ayant pas trouvé de plume d'aigle, il s'est contenté d'une plume de corbeau, animal assez fréquent dans la région, dont on dit qu'il vole sur le dos pour ne pas voir la misère ambiante. En tout cas, tout cela est du plus bel effet. Il fait beau, l'air est pur, mais les chevaux sont nerveux. Certes, il y a des mouches, mais est-ce bien suffisant comme explication ? Ah, que nenni, dirait-on dans les salons parisiens. sauf Petite Pêche, qui ne maîtrise pas bien le parisien courant, se dit qu'il s'agit de faire gaffe. Car si les canassons sont inquiets, c'est qu'il y a de quoi. Ah, c'est futé, ces bestioles. Et elles sentent les choses bien avant nous, comme le disait ma grand-mère en parlant de ses chats. Sauf Petite Pêche, qui n'avait jamais eu de chat, mais des chevaux aussi. Et l'inquiétude qui gagnait ces deux-là avait de quoi lui mettre la puce à l'oreille. Alors du coup, il progresse comme sur le sentier de la guerre. Tous les sens en éveil, prêt à pisser sur le moine pony qui oserait montrer le bout de ses plumes ou à transpercer d'une flèche tout autre adversaire. Tout à coup, le loup surgit. Ah mais alors pas n'importe quel loup, hein. Un gros loup. Un très gros loup. Un très, 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 très gros loup. Loup-garou, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, il est tellement gros, ce loup, qu'on dirait plus un loup. Même chez les trolls, il serait considéré comme un monstre, hein, c'est dire. Les chevaux hennissent, se cabrent, renversent leurs cavaliers et s'enfuient. Enfin, sauf celui qui porte leur bagage et que Victor tient solidement. La bête, évidence Victor. Ouais, laconique son frère de sang. Le loup est planté sur ses quatre pattes, fermement. Il n'a manifestement pas l'intention de bouger d'un poil. Les jambes écartées, solidement campées dans ses mocassins, sauf Petite Pêche, donne exactement la même impression. Le loup regarde sauf Petite Pêche dans les yeux. Sauf Petite Pêche regarde dans les yeux du loup. C'est un duel dieu. C'est à qui lâchera le premier. On sait, on sent que celui des deux qui baissera le regard le premier sera le vaincu. Une sorte de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette mais en plus barbare, voyez ?» Victor, les gamins, pauvre Pépé, Petite Pêche à la peau sauvage, mais enfin c'est pas le moment de perdre du temps à énoncer tout ça, je dis Pépé, n'osent plus bouger. Ils sont regroupés et attendent fiévreux l'issue du duel. Les jumeaux auraient bien voulu montrer leur habileté à l'arc en fléchant la bête, mais Victor les en a empêchés. Hein, cela risquerait de la rendre furieuse et ils préfèrent ne pas imaginer ce qu'un animal de cette taille peut faire lorsqu'il est furieux. Et même avec son fusil, pourtant capable d'abattre un bison à 134,5 mètres les jours de visibilité moyenne, il ne se sent pas de force, alors des flèches, vous pensez bien. Alors, le loup, enfin si on peut appeler ça comme ça, est toujours immobile. Sauf Pépé aussi, on croirait deux statues. Même les mouches se sont arrêtées de voler. Il n'y a pas un bruit, pas un souffle. Ils sont là, face à face, l'homme et la bête. Et il ne se passe rien. Du coup, Victor et sa petite famille ont fini par s'asseoir et puis de temps en temps, ils jettent un regard discret vers les deux combattants tout en partageant quelques provisions. Les deux adversaires ne bougent toujours pas. La nuit commence à tomber. L'air fraîchit. Du coup, Victor construit une cabane avec l'aide des enfants. Petite Pêche à la peau douce prépare le repas parce que l'appétit vient en mangeant, comme dirait l'autre. Et que les... un petit casse-croûte... La bête ne quitte pas, sauf Petite Pêche, des yeux. Et inversement. Maintenant, la nuit est tombée. Victor, Petite Pêche à la peau douce et les jumeaux se sont retirés dans la cabane pour dormir. Seuls, les yeux jaunes de la bête brillent dans la nuit. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je trouve que c'est un peu long, tout ça. Alors, je ne vais pas tarder à aller me coucher et... Victor est réveillé par les chants d'oiseaux, aussi divers que variés. Manifestement, il fait jour. Ah bah oui, hein, manifestement, parce que les oiseaux, à part les hiboux, ça chante pas la nuit. Hein, alors si les oiseaux chantent, c'est qu'il fait jour, c'est... Victor se frotte les yeux, sort de la cabane, s'étire. Il jette un regard aux alentours. Il se frotte les yeux encore une fois. Il re-regarde dans la direction où se trouvait la veille, au soir, sauf Petite Pêche et la bête. Et là, il se refrotte à nouveau les yeux.
Oh, mais venez voir! Oh, mais venez voir!
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Demande l'un des jumeaux.
Oh, ben plus tard, moi je dors, dit l'autre.
Victor s'agace et secoue tout son petit monde, qui ne me peut faire autrement que d'émerger du sommeil, quoique en râlant copieusement. Et ceci fait, il les entraîne au dehors et d'un geste de la main, leur fait découvrir ce qu'il a découvert lui-même quelques instants plus tôt. Alors là, hein, franchement, si ça c'est pas du suspense, hein, qu'est-ce que c'est, hein? Ah ouais. Hein? Oui, je sais, il est un peu court cet épisode. Mais bon, hein, si vous croyez que c'est facile d'inventer des choses pareilles, hein, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Hein. Ah non, j'ai besoin de récupérer, moi. Ah non, c'est... Et puis franchement, hein, ce qui est sûr, c'est qu'on saura ce qui arrive à Victor et à sa petite famille dans le prochain épisode de notre Papilton feuilleton. T'as vu l'ancêtre? Il veut descendre à la prochaine.
Oh, ça alors, s'exclament les jumeaux. Oh, c'est pas croyable, dit Petite Pêche à la peau douce.
Je vous l'avais bien dit, affirme Victor, qui avait rien dit du tout. Ah, il faut dire que le spectacle qui surfe à leurs yeux n'a rien dit d'habituel. Bien sûr, futé comme vous l'êtes, vous savez déjà ce que nos amis vont découvrir. Ah oui, je sais, c'est facile, mais j'ai pas pu résister à cette image. Sauf Petite Pêche est blottie entre les pattes avant de la bête. Celle-ci, étant couchée légèrement de biais, offre sa poitrine à la tête du dormeur. Ouais, il dort, sauf Petite Pêche à la peau douce. Il dort d'un gros sommeil enfantin, un sourire aux lèvres alors que le monstre lui lèche délicatement la main. Une image digne du calendrier des postes qui serait très facile à réaliser de nos jours par un simple traficotage informatique. Mais l'image que nos amis ont sous les yeux n'est pas traficotée. La bête est bien aussi énorme qu'elle en a l'air, et l'attendrissement ressenti en premier se retrouve légèrement mêlé d'angoisse. Mais c'est toujours le sourire aux lèvres que, sauf petite pêche, prend la parole.
Alors, qu'est-ce que vous en dites ?
Ben, dit Victor en se grattant la tête, tu l'as apprivoisé,
On peut jouer avec, disent les jumeaux.
Sauf petite pêche, n'est pas du tout d'accord. Elle dit, il n'est pas question de jouer avec ce monstre. Il pourrait vous couper en deux d'un seul coup de dent. Vous avez pas entendu ce qu'elle a fait déjà, cette bête ?
Mais non, elle est gentille comme tout. Hein, que t'es gentille comme tout ? Dit sauf petite pêche.
Il fouraille dans la forêt de poils qui se dresse près de lui, comme vous, vous le feriez avec votre chienne préférée.
Mais tu pourrais peut-être nous raconter ce qui s'est passé, suggère Victor.
Bah c'est ça, et pendant ce temps-là, je prépare le petit déjeuner, dit Petite Pêche.
Et plus tard, ils se retrouvent autour du feu, la bête venant poser son énorme museau sur les genoux de sauf Petite Pêche.
Eh bien voilà, commence l'Indien. Quand vous êtes parti, vous couchez, la situation n'évoluait pas beaucoup. Elle n'a pas évolué beaucoup plus pendant encore une heure ou deux. Enfin, je sais pas, j'avais autre chose à faire que de regarder l'heure, moi. Et c'est vers le milieu de la nuit que j'ai réalisé que ce pauvre animal avait autant peur de moi que moi peur de lui. Alors, au lieu de garder cette attitude menaçante que j'avais tout d'abord adoptée, je me suis assis. Et au bout d'un moment, elle a fait pareil. J'ai commencé à lui parler doucement. Elle n'avait plus vraiment l'air agressive. Je lui ai donné un petit peu à manger, puis on est devenus copains, quoi.
Et à ce moment-là, il est interrompu par Petite Pêche qui va et vient en préparant le déjeuner. La poêle est sur le feu, les œufs prêts à cuire. Et Petite Pêche demande «
Personne n'a vu le jambon ?»« Ben voilà,
c'est-à-dire que sauf Petite Pêche a l'air beaucoup moins fier tout d'un coup.
C'est que le jambon, c'est ce que je lui ai donné à manger, quoi. C'est que, ça a l'air de rien, mais c'est que ça mange beaucoup, une bête de cette taille, hein, vous savez. Tu lui as donné le jambon ? Tout le jambon ?
Alors là, Petite Pêche est outrée.
Bah oui, j'avais pas grand-chose à lui donner, alors... Et nous, alors, qu'est-ce qu'on va manger maintenant ? Des œufs. On fera un repas plus copieux ce midi, mais qu'est-ce que tu veux ? Il fallait bien que je fasse quelque chose, hein ? Reconnais au moins qu'il est pas parti pour rien, ce jambon. Moi, j'ai plus peur du tout qu'il nous agresse, hein.
Alors évidemment, vu sous cet angle, dit Victor, allez, c'est pas grave, sauf Petite Pêche, hein, c'est pas grave.
Bah en tout cas, c'est drôlement chouette,
disent les jumeaux en caressant discrètement le pelage du monstre.
Ce qui serait encore le plus chouette, dit sauf Petite Pêche, c'est que je vais pouvoir changer de nom. Encore ? Tu vas encore changer de nom, disent-ils tous en cœur ? Et comment tu vas t'appeler cette fois ? Demande Victor. Ben, un nom qui contient pas le mien, c'est sûr, se vexe Petite Pêche.
J'ai vos dents,
Je veux m'appeler Gévaudan.
Ben, ça veut rien dire du tout, dit l'un des gamins.
Ben, si. C'est le nom de la région que nous traversons, intervint Victor. Ouais, c'est ça. Et puis, Gévaudan, ça veut rien dire en sioux, mais c'est bien français. Et puis, dorénavant, je changerai plus de nom, j'en ai marre. Quand je garde un nom pendant 2 épisodes, c'est le bout du monde. C'est chiant à la fin. L'auditeur arrive même plus à savoir de qui on parle dans cette histoire. Alors, Gévaudan, c'est très bien. Et puis, ça fait bien sioux, même si ça veut rien dire en sioux. Et puis, je vais bien me marrer quand on dira hey, « T'as vu la bête du Gévaudan ?» et qu'on soupçonnera même pas que c'est la vraie.
« Ah ouais, dit Victor, on ferait bien de quitter le coin vite fait quand même, hein. Parce que moi, je suis pas vraiment sûr que les gens du coin vont se stagier là, comme tu le dis, hein.
Oh, peut-être pas ici, mais ailleurs, je vais faire un tabac avec cette bestiole, s'auto-félicite Gévaudan.
Oh, bah ça c'est sûr, ajoute le jumeau qui ressemble plus à l'autre.
Ah bah par contre, la facture du jambon, dit Petite Pêche, eh bah il va falloir la payer.
Oh, une la bête vaut bien un jambon,
dit Gévaudan, essayant de parodier les Henri IV, en beaucoup moins convaincant quand même, faut reconnaître.
Bon, c'est pas tout ça, mais faut y aller, proclame Victor en se redressant laborieusement. Plat nous attend.
Plat,
mon fils.
Ah, vous l'avez compris, c'est en courant l'un vers l'autre, au vrai sens de la phrase d'ailleurs, parce que seul Victor est en train de courir vers son père, qu'ils ont proféré ces mots. En fait, si j'avais voulu être honnête, j'aurais pu vous dire qu'ils se sont exprimés simultanément et vous faire entendre quelque chose comme « mon plat ». Mais s'ils parlent ensemble, c'est franchement incompréhensible pour vous, alors j'ai préféré prononcer les deux phrases l'une après l'autre. Et c'est... voilà. Et n'allez surtout pas en déduire que Victor, que j'ai fait parler en premier, est plus heureux de revoir son père que l'inverse. Non, non, ils sont heureux tous les deux. « Papa, que je suis content de te voir. Tu vas bien ?»
T'as mon argent ?
Oui, t'inquiète pas, tout va bien.
Vous n'avez pas trop dépensé en route, j'espère ?
Ben, un peu sur la fin.
Comment ça ?
Ben, c'est à cause des jambons. Alors là, je vous laisse deviner le niveau d'incompréhension de plat. Enfin, je vous dis ça parce que je me sens tout à fait incapable de vous décrire la tête qu'il fait en ce moment. Il a le regard tellement rempli de questions qu'il en paraît vide. Sa mâchoire pend assez lamentablement. À vrai dire, l'image la plus proche, quoique un peu modeste, de l'air général de plat, serait celle d'un débile mental profond se demandant comment résoudre une équation du troisième degré. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous expliquer. Je vous laisse imaginer les détails.
Papa ! Si tu me laisses pas tout te raconter par le début, on s'en sortira pas.
Ah ouais, mais quand même, mon argent.
Oui, papa, c'est ton argent, il est là, ton argent. Tu me laisses parler, j'ai plein de choses à te dire.
Alors, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait 3 fois que Victor appelle plat papa. Je suis prêt à en déduire que le tonitruant plat-plat du début de l'épisode était dû à l'émotion. Hein? Pendant que nous sommes arrêtés là, j'en profite pour vous dire que Victor est venu seul pour prendre contact avec Plat. Il a laissé Petite Pêche à la peau douce, les enfants et Gévaudan, et surtout la bête, dans un campement à quelques kilomètres, et compte préparer tout doucement Plat à leur venue. Ah, il connaît son père, son cœur est fragile. Et il se souvient d'une fois, quand il était jeune. Plat avait égaré une cassette contenant ses économies. Et il courait partout en criant « au voleur, à l'assassin, au meurtrier, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent !» Et il a continué comme ça pendant de longues minutes, on se serait cru au théâtre. Il parlait de faire donner la question à toute la maisonnée, et même de se pendre, mais quand il a eu fini, il était au bord de l'apoplexie. Et cela avait beaucoup frappé Victor. Il ne veut donc pas donner de choc à son papa. Et c'est dans ce but également qu'il est venu sans le sac contenant l'argent. Sinon, Plat ne se serait sûrement pas attardé à écouter son fils. Il aurait d'abord fait ses comptes.
Mais mon argent !
Mais ton argent est en sécurité. Je t'assure que t'as pas à t'inquiéter, le rassure Victor. Et il ajoute.
Mais ça coûte cher en jambon, mais c'est drôlement efficace, hein. Bon, si tu le dis, mais alors fais vite et on va chercher mon argent.
Pla-pla, arrête! Si tu me laisses pas parler, on n'en viendra jamais à bout. Alors là, encore une petite aparté, je vois que ma théorie était juste, hein. Comme je l'avais laissé entendre plus haut, Victor appelle son père Pla-pla quand il est ému ou énervé, hein. Ah, c'est terriblement révélateur le langage. Les psychanalystes eux-mêmes s'appuient en grande partie sur la manière qu'ont leurs patients de s'exprimer pour établir leur diagnostic. Hein, c'est dire. Mais je voudrais pas vous faire votre temps. J'arrête là cette digression. Non sans vous prévenir quand même à l'avance que, dans le même but, je vais pas vous faire subir le récit que Victor a fait son père, étant donné qu'en l'état actuel des choses, le père n'est au courant de rien ou presque, alors que vous savez tout puisque vous avez écouté les épisodes précédents. Donc, on va simplifier et reprendre l'action. Après que Victor soit arrivé à la fin de son histoire et répondu à quelques demandes d'approfondissement de la part de Plat. Évidemment, ça a pris du temps. Comme il n'allait pas rester là debout sur le seuil, Victor a proposé de boire un coup. Plat a dit d'accord, à condition de ne pas payer. Et nous les retrouvons alors dans l'auberge dans laquelle ils se sont rendus.
Alors, on y va ou tu retournes à la maison et je te les ramène ?
Bah, allons-y, mon garçon, allons-y. Plus vite je toucherai mon argent et mieux ce sera.
Et on pourra parler en route, hein ? Moi aussi, il y a plein de choses que j'aimerais savoir.
Et sur ces bonnes paroles, ils se lèvent et partent. Non sans que Victor n'ait laissé un pourboire destiné à la servante, que Plat ait ramassé ce pourboire et l'ait mis dans sa poche. Et nous les retrouvons chevauchant, Victor son cheval, Plat son âne, parce que cet animal a pour Plat d'énormes avantages, entre autres celui de se nourrir essentiellement de chardons ou d'autres comestibles qui ne coûtent rien à son propriétaire.
Et maman ? Et ma sœur, comment se porte-t-elle ?
Oh, toujours pareil, dit Plat. Si je les écoutais, je leur paierais au moins une robe par an. Ta mère, ça va, elle râle pas trop. Mais ta sœur, oh, à l'entendre, c'est de ma faute si elle n'a pas trouvé à se marier. Elle est trop bête, oui. Même avec une dot, elle ne trouverait pas à se marier.
Victor, lui, ne répond rien. Il pense qu'elle n'est pas si bête que ça, sa sœur, et qu'une dot et quelques robes et quelques sorties amélioreraient sûrement la situation. Mais il ne dit rien, car il connaît les principes d'éducation de son père. Et en plus, ils arrivent.
plat à compter son argent. Et malgré les dépenses occasionnées par l'achat des jambons, le total de la recette dépasse ses espérances. Donc, plat est heureux. Comme il vient d'apprendre que les émeutes se poursuivent dans les colonies anglaises outre-Atlantique, il lui paraît tout à fait judicieux de réaffréter un nouvel envoi d'armes en direction des révoltés qui ne manqueront pas de lui en acheter au meilleur prix. Hein, car l'argent, il suffit pas de l'entasser. Ah non, faut le faire travailler. Il faut qu'il rapporte. Garder son or dans un coffre, comme dit Plat, c'est beau, mais ça sert à rien. Mais enfin bon, il verra ça plus tard. Pour le moment, il fait connaissance de la femme de son fils. Oh, il la trouve bien belle, cette petite pêche à la peau douce. Enfin, il a toutefois un peu de mal à réaliser qu'il est le grand-père des jumeaux qui sont en train de tirer les oreilles de son âne. Quant à Gévaudan, il lui doit beaucoup, certes, mais Victor lui a raconté comment sa nouvelle belle-fille a échappé au viol. Mais ce que Plat a surtout retenu, c'est que sans l'intervention de Gévaudan, les violeurs se seraient enfuis avec son argent. Hein ? Il lui plaît, cet Indien. Surtout depuis que Gévaudan, lors des présentations, suivant les coutumes sioux, lui a offert un arc magnifique en disant « Arc, je te donne à Plat. Maintenant, il faut que Plat te bande. » Plat s'est soumis au rituel et a tiré une flèche comme il a pu. En échange, puisque Victor lui a expliqué que chez le Sioux, quand on reçoit un cadeau, on doit en faire un retour, il a donné à Gévaudan la menue monnaie que Victor avait laissée en pourboire à l'auberge et que lui avait mis dans sa poche. Bref, Plat est heureux. Bernadette Laporte, épouse vilain, la mère de Victor, est enchantée d'être grand-mère. Elle trouve ses enfants adorables. Oh, ben bien sûr, il a fallu leur expliquer qu'il n'était pas question qu'ils s'entraînent au tir à l'arc à l'intérieur de la maison, qu'on ne mange pas avec ses doigts, qu'il est interdit de scalper les enfants du voisin, mais ils sont si mignons. Sa belle-fille lui plaît beaucoup aussi. Elle la trouve belle, réservée, serviable. Et surtout, elle lui sait gré de veiller à ce que Victor ne boive pas trop. Cela l'inquiète, ce vice qu'il a pris dans les colonies. Elle pense que Gévaudan est un peu sauvage. Mais elle reconnaît qu'il a un bon fond. Il lui a donné une paire de mocassins fort confortables et il porte avec ostentation le ruban qu'elle lui a offert en échange. Et c'est surtout grâce à lui que Plat, son mari, est de si bonne humeur. Et rien que pour ça, il lui serait fort sympathique. Bref, Bernadette est heureuse. Géraldine Villain, la sœur de Victor, est rouge de bonheur. Plat lui a promis qu'il lui offrirait une robe neuve. Il faut croire que les affaires ont été particulièrement bonnes. Ainsi pourra-t-elle peut-être aller au bal lors de la prochaine fête du village sans avoir l'air d'une souillon. Il y a un autre motif à la rougeur de son teint. Elle est timide. On ne soupçonnerait pas à la voir. Mais sous son air un peu nunuche vibre un cœur de femme, un cœur qui bat un peu plus vite à chaque fois qu'elle aperçoit Gévaudan. Celui-ci a repris son vêtement traditionnel, c'est-à-dire pas grand-chose, et la vision de ses pectoraux musclés n'est pas pour rien dans l'accélération du rythme cardiaque de Géraldine. Elle a souri quand il lui a offert la barrette de cheveux qui lui servait à fixer ses plumes, et en échange, elle lui a donné la chaîne et la médaille qu'elle portait autour du cou.
Son père lui a fait remarquer que c'était un cadeau disproportionné, mais elle a tenu tête et elle ne le regrette pas. Elle est belle, sa médaille, sur ce corps bronzé, et quand elle pense que ce bijou qui reposait entre ses seins touche la peau de l'Indien, elle en frissonne. Bref, vous l'avez deviné, Géraldine est heureuse.
Gévaudan est content. Tout le monde est gentil avec lui. Il passe le plus clair de son temps à la chasse et ramène chaque jour de quoi agrémenter les repas. Plat le félicite chaleureusement et ça lui fait plaisir. Il trouve que la demoiselle est bien jolie. Elle lui a offert une belle médaille en or comme en portent les Ouachichous. Et il voit bien, à la façon dont elle le regarde, que ça lui fait plaisir qu'il la porte. Bref, Gévaudan est heureux.
Ouais, du côté de chez Victor, c'est pas la même chose. Petite Pêche à la peau douce n'est pas contente. Serviable, elle a proposé dès son arrivée son aide pour les tâches ménagères. Et au fil des jours, sa belle-mère lui a confié de plus en plus de responsabilités. Jusqu'à ce jour de la semaine dernière où elle lui a demandé «
Oh, ça vous ennuierait pas, ma chère petite, de vous occuper des repas? La cuisinière est indisponible. »
Le hic, c'est que la cuisinière n'est pas encore revenue. Et que depuis ce temps, c'est Petite Pêche à la peau douce qui cuisine. Et ça lui plaît pas, Petite Pêche à la peau douce. Elle soupçonne Plat d'avoir soufflé cette idée à sa femme et d'avoir licencié la cuisinière et de faire des économies sur son dos. Elle n'a rien contre le fait de rendre service, ni même de faire la cuisine, mais c'est la méthode qui lui déplaît. Et puis, elle a aussi de gros problèmes avec Victor. Celui-ci a du mal à supporter l'autorité de son père et est le plus souvent à l'estaminet qu'à la maison. Et quand il rentre, il est ivre et il lui parle d'une façon qu'elle ne supporte plus. Il était si gentil, son Victor, quand il vivait dans la tribu. Elle voudrait retourner là-bas, dans les plaines de l'Ouest, revoir son père, sa mère, ses frères, ses et sœurs. Oh, ce serait le bonheur! Bref, Petite Pêche n'est pas heureuse.
Et la bête, me direz-vous? Eh ben, la bête est de garde dans la cour. Elle n'a plus à chasser, à égorger, à étriper. Tous les jours, à heure fixe, Gévaudan lui apporte sa gamelle, lui fait des câlins. Elle passe ses journées à somnoler et grogne à l'approche du moindre visiteur. Et Plat est très gentil avec elle. Il voit en elle le gardien de son or et ne pleure pas sur les jambons qu'il lui offre de temps à autre. Bref, la bête est heureuse.
Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous quitter dans ce mélange de bonheur. Et nous retrouverons bien sûr, on descend tous de nos ancêtres à la prochaine émission. En attendant, je vais dire un grand merci à Nico qui toutouillait les boutons en rigolant derrière sa vitre. Et à vous, je dis comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.